Monsieur Lalonde, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Salut, Ray.
Alors, baseball, évidemment, pourquoi? Parce que les séries mondiales commencent ce soir au Texas.
Oui, puis tu sais, Paul, la saison de baseball est tellement longue, d'habitude, 162 matchs. Cette année, 60 matchs. Ça a été plus court. Mais les matchs à saison régulière ont toujours de la difficulté à attirer notre attention. Mais quand les séries mondiales débutent, on est au rendez-vous. Ça commence ce soir, c'est à Arlington au Texas. Ça, c'est le concept de la bulle pour le baseball, c'est-à-dire un endroit neutre. Et des équipes sont là depuis plusieurs semaines déjà. Donc, on a atteint le niveau de sécurité avec les mesures préventives nécessaires. Il n'y a plus de cas positifs au baseball depuis quelques semaines déjà. Ça va très bien. Les Dodgers de Los Angeles contre les Rays de Tampa Bay. Dimanche soir, j'ai regardé le septième match. Il y avait 11 500 personnes dans les gradins dans le match Atlanta contre Los Angeles. C'est pour vous dire qu'on procède graduellement vers un retour avec des foules. Puis il y en a qui vont questionner ça en disant ben c'est un peu prématuré, c'est un peu dur là, d'y aller si vite. C'est vrai, mais ça a rajouté une ambiance qui était excellente. On sentait qu'il y avait quelque chose, un enjeu dans le match, puis on sentait que la foule, pour les Dodgers en particulier, était au rendez-vous pour encourager cette équipe-là. C'est pas une surprise de voir les Dodgers en série mondiale. Ils ont atteint la finale en 2017 et en 2018. Ils ont perdu les deux fois. Puis ils ont des grosses vedettes, là, des grosses pointures. Clayton Kershaw, Mookie Betts, des gars qui gagnent 30 millions et plus par année. C'est une grosse équipe. Mais la surprise, c'est de voir les Rays atteindre la finale. Parce que parmi les salaires du baseball majeur, cette année-là, juste dans la saison de 60 matchs, les Dodgers étaient deuxièmes dans la masse salariale. Et les Rays, 28e.
C'est deux philosophies complètement différentes qui s'affrontent.
C'est la série mondiale des organisations diamétralement opposées. Littéralement, un club de riches pacté qui dépense à volonté, puis un club de pauvres qui gère un budget microscopique. C'est ça, là. Et c'est ce qui est la beauté du sport, c'est que ça donne des fois des occasions comme ça. Mais je veux rassurer les gens. Les gens qui ont de l'espoir pour le retour du baseball à Montréal avec les Expos, dans une garde partagée avec les Rays, ben ça nous donne un peu d'espoir qu'une équipe qui dépenserait moins pourrait aller loin. Mais 18 des 20 derniers gagnants des séries mondiales sont des équipes riches. Il faut être riche au baseball pour gagner. Alors, je pense pas nécessairement que les Dodgers gagnent la série mondiale. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez... Bon, pas miraculeux, mais impressionnant de voir les Rays être compétitifs à chaque année. Mais même avec ça, Alain, Paul, le succès des Rays sur le terrain, ça n'assure pas leur avenir à Tampa Bay. Ce qui est bon pour nous si on veut une équipe de baseball. Parce qu'on veut qu'ils ne soient pas trop stables à Tampa Bay pour que M. Sternberg, le propriétaire, cherche une solution pour peut-être déménager cette équipe-là à Montréal ou la partager avec Montréal. Mais ça, c'est 2028. On a le temps d'en parler 28 fois avant de se rendre là. La difficulté des Rays, c'est qu'ils jouent dans la division des Yankees puis des Red Sox, qui sont les plus gros dépenseurs d'argent. Alors, la question, c'est comment peuvent-ils arriver, année après année, à être des aspirants? Ils n'ont pas l'argent. Je ne peux même pas te nommer deux joueurs des Rays de Tampa Bay. Et pourtant, ils ont du talent, c'est juste qu'ils ont du jeune talent, puis quand les gars deviennent bons, ben, ils partent pour aller jouer ailleurs, pour aller chercher plus d'argent ailleurs.
Mais as-tu pensé, Ray, par exemple, là, si le club s'en venait à Montréal dans une garde partagée, c'est aussi la division des Blue Jays de Toronto, cela, là.
Tout à fait.
Imagine-toi les confrontations entre les deux clubs, là.
Mais la rivalité, les rivalités, Alain, ne manqueraient pas. Hey, imagine à Montréal recevoir les Yankees et les Red Sox, accueillir les Blue Jays, c'est sûr. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va gagner souvent? Non.
Ouais,
est-ce qu'on peut être dans le bas-fond du classement souvent? Oui. L'année passée, là, en 2019, les Dodgers étaient premiers dans les majeures avec 49 000 spectateurs par match. Et les Rays étaient littéralement 29e avec 14 000. C'est encore une fois opposé. Puis ça m'amène à me poser la question, est-ce que le baseball peut survivre en Floride? Le Tropicana Field, c'est un des pires stades du baseball. La foule qui est présente au match des Rays, c'est une foule vieillissante. Il y a plusieurs études qui montrent que le baseball est très populaire en Floride, sauf que dans la région du centre de la Floride, il y a Disney, il y a Universal, il fait chaud l'été, il y a de la compétition dans le tourisme, puis les sports sont pas nécessairement accueillis à bras ouverts.
Ils sont très populaires. Le baseball, c'est très populaire. La Ligue des Pamplemousses, par exemple, parce que les Snowbirds, là, qui sont en Floride l'hiver, vont aller au baseball. Mais quand ils retournent dans le nord au printemps, ben là, ça intéresse moins les gens de la place. Là.
Les gens de la place trouvent qu'il fait trop chaud. Puis il y a beaucoup d'immigrants. Puis des fois, le prix est un obstacle pour les travailleurs qui sont en Floride. Ça coûte cher aller voir du sport. Fait que finalement, toutes ces combinaisons-là font en sorte que c'est dur pour les Rays. Puis je souligne une chose, c'est que cette année, ça a été une bonne année pour les équipes de la Floride. Le Heat de Miami s'est rendu en finale. Le Lightning est champion de la Coupe Stanley. Les Buccaneers ont Tom Brady. Les Rays et les Marlins ont fait les séries. Et malgré tout, le sport ne se vend pas facilement. Dans le sport, il n'y a pas de lien entre les performances sportives et la mise en marché. On peut être très populaire, puis on ne gagne jamais. Puis on peut gagner souvent, puis jamais attirer des foules. Puis les Rays sont dans la catégorie. Ils sont toujours compétitifs, puis malgré tout, leur performance marketing ne fait pas la job. Gagner, là, c'est juste un ingrédient dans la recette totale d'une équipe sportive.
Ça, je comprends, mais ce que tu es en train de nous dire, dans le fond, là, c'est que dans le marché du baseball actuel, un club à Montréal est pratiquement condamné à
être moyen.
Ouais.
Ouais, puis moyen, c'est comme peut-être exagéré, Paul. Parce qu'il n'y a aucune chance qu'on peut compétitionner. Puis je dis pas ça pour décourager les gens là, d'aimer le baseball. Bien, non, non, ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être réaliste aussi. Faut pas penser qu'on rentre dans une division puis le championnat va être à notre portée.
Mais Yankee, ça va faire comme avec les expos dans le temps. Quand il arrive l'autonomie complète, là, les Larry Walker, puis André Dahl, on va tous les échanger.
John Wetland, puis tous ces gars-là quittent les expos. Mais c'est, ça n'a jamais été aussi pire que la division S de la Ligue américaine, Alain. Parce qu'il n'y avait jamais de Yankees.
Ouais, ça, c'est, ouais.
C'est ça la difficulté. Puis, alors, c'est pour dire quand même qu'il faut donner un crédit aux Rays d'avoir réussi encore une fois à surmonter les obstacles avec une masse salariale de petites entreprises versus une multinationale qui s'appelle les Dodgers de Los Angeles.
Merci, Ray. Bonne journée. À demain.
À demain, messieurs.